Vous pouvez prendre place et prendre vos Bibles pour les ouvrir au psaume 133. Nous lisons tout le psaume. Cantique des montées de David. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et nous allons lire deux autres textes qui ont un lien avec ce psaume. Le deuxième, c'est dans Jean, au chapitre 17. Jean chapitre 17, nous lirons le verset 10 qui pose un fondement, ensuite les versets 20 à 24 qui le développent. C'est Jésus qui parle à son Père. « Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. » Verset 11, c'est le verset que je voulais. « Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Verset 20 à 24 qu'il le développe. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, et qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Un texte qui parle de cette unité. Et nous lirons un troisième texte dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Mais nous lirons le verset 12, 1 Corinthiens 12, 12. « En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un corps, ainsi en est-il du Christ. » Si un homme et une femme ne s'unissent pas, ils ne peuvent produire la vie. C'est pas possible. Eh bien, de même, si l'esprit n'est pas uni à la parole de Dieu, aucune vie spirituelle n'est produite. Et c'est une joie pour nous de compter sur l'œuvre de l'Esprit de Dieu encore aujourd'hui pour comprendre cette parole. J'aimerais commencer par une question. Avez-vous déjà vu une équipe unie? Une équipe où chacun se dévouera pour l'autre en cherchant le bien des autres avant tout? C'est vrai, nous trouvons des exemples dans le sport d'équipe, où par exemple des petites équipes sont capables de battre de grandes équipes parce qu'ils sont unis et pas les autres. Nous trouvons aussi des exemples dans l'armée, où la vie de toute la troupe dépend des actes de chacun des membres du groupe. La solidarité est essentielle. Et chers frères et sœurs, nous sommes dans une guerre. Une guerre féroce et sans merci, une guerre terrible où la solidarité dans le groupe que représente chaque église locale est essentielle. Si un seul donne l'accès au diable, l'ennemi entre dans la maison et fait beaucoup de ravages. On le comprend bien quand on a la troupe militaire. Si un seul donne l'accès à l'ennemi, vous pouvez imaginer ce que cela peut donner. Mais quel réconfort, quelle joie, quelle paix, quel soulagement lorsque la troupe est unie. On est soulagé, on est dans la paix. Quel réconfort, quelle joie, quelle paix, quel soulagement lorsque la troupe est unie. Et le pèlerin aspire à cette unité dans le psaume des montées 133. Et il nous indique que cela anime son cœur en allant à Jérusalem. Il se réjouit de l'unité des frères qui habitent ensemble. Et ce que nous avons maintenant comme habitude, puisque c'est le 14e psaume des montées que nous voyons ensemble, eh bien nous avons l'habitude de faire un lien avec notre propre pèlerinage en fait, notre pèlerinage vers la Jérusalem céleste. Un lieu d'unité excellente, une unité sainte, une unité rafraîchissante. Et c'est ce dont parle ce psaume, qui peut être partagé en trois parties, et ce sera nos trois points. Le premier, ce sera « c'est bon ». Le deuxième, c'est « comme ». Et le troisième, c'est « là ». Enfin, je vais vous donner les titres complets. Le premier, c'est « c'est bon d'habiter unis ensemble ». Le deuxième, c'est « comme l'huile et la rosée ». Et le troisième, c'est « là ». Que Dieu bénit et donne la vie. Commençons par le premier. C'est bon d'habiter unis ensemble. Regardez dans vos Bibles le premier verset du chapitre 133 de Psaume. Cantique des montées de David. Voici qu'il est bon. Il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. David se réjouit de l'unité. Ce roi qui voit le royaume uni et qui vient de faire monter l'arche à Jérusalem se délecte de cette harmonie, cette entente en toutes les tribus d'Israël devant l'Éternel. Nous avions vu dimanche passé avec le psaume 132 cette montée de l'arche à Jérusalem. Mais David n'a pas toujours vécu cette unité. Pendant des années, il a subi la jalousie et la haine de son beau-père. Et lorsque Saül est mort, David n'est pas devenu roi sur tout Israël. Il était à Hébron pendant 7 ans où il a vécu aussi la guerre civile. Depuis la chute, les accusations comme Adam et Ève, les meurtres comme Caïn et Abel, les divergences comme entre Abraham et Lot, les rivalités comme entre Ismaël et Isaac, la tromperie et le mépris comme entre Ésaü et Jacob, la jalousie et la méchanceté, comme Joseph avec ses frères, et tant d'autres choses, tuent l'unité. Et David en est pleinement conscient. La division, la désunion, les disputes, les querelles, les brouilles, les dissidences, etc., appauvrissent, désécurisent, volent du temps et de l'argent, décrédibilisent et ternissent la gloire de Dieu. La division qui désécurise et qui ternit la gloire de Dieu. Mais Dieu a utilisé David pour rétablir l'unité dans le peuple de l'Alliance. Cette unité a amené la paix, la joie et l'adoration de l'Éternel. Et David, nous le savons, nous l'avons déjà vu et j'aime à le répéter, est une figure de quelqu'un de plus grand encore, de Jésus-Christ, qui est venu établir l'unité dans l'adoration de l'Éternel, dans le peuple de l'Alliance. Et c'est beau de contempler l'unité. Et ce psaume, en fait, nous invite à contempler l'unité. On va prendre un peu de temps pour contempler l'unité. C'est bon de voir les bonnes choses, d'y réfléchir un peu. Ça nous motive à le vivre. Souvent, et en préparant la prédication, je me suis rendu compte que c'est plus facile de voir ce qui ne va pas que de vraiment prendre du temps pour décrire ce qui va, ce qui est beau, ce qui est bon.
Que Dieu m'aide à grandir encore, hein.
Mais c'est bon et agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. L'unité est une très bonne chose et est très agréable en fait. L'unité produit la joie de se revoir à chaque fois que nous le pouvons. Quand on est unis, on a envie de se revoir. L'unité est le terreau où les graines d'amour poussent avec vivacité et où l'arrosage de la prière est le plus efficace. Et ce terreau contient une quantité d'ingrédients excellents. Donc l'unité, c'est le terreau où les graines d'amour poussent avec vivacité et où l'arrosage de la prière est le plus efficace. Et ce terreau contient une quantité d'ingrédients excellents. Alors que trouve-t-on dans l'unité ? Ce sont des choses agréables, désirables. En voici quelques-unes. Premièrement, des frères remplis de bonté les uns pour les autres. Un désir de chercher le bien de tous. La mise au service des autres, les talents que Dieu a donnés, de l'encouragement dans les moments difficiles, un lieu de repos pour l'âme fatiguée. Dans cette unité, on trouve une même vision, une même motivation, une communion profonde, bienfaisante, un soutien, un lieu où l'on se donne sans compter, sans peur non plus, une cohabitation harmonieuse, de l'égard les uns pour les autres, de la solidarité dans la défaite comme dans la victoire. C'est ça l'unité. Des projets solides qui portent des fruits. La recherche du bien de l'autre, un message proclamé et soutenu par tous. La confiance les uns envers les autres. Le soutien dans les initiatives. La paix, la joie.
Il faudrait qu'on continue un peu là.
C'est bon, non? C'est bon l'unité. C'est agréable. Il n'y a pas de choses irritantes dans l'union. C'est bon. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Et le pèlerin se réjouit de cette union. Il s'en délecte. Il la désire et il fera tout son possible pour la maintenir. Un jour, dans la Jérusalem céleste, nous vivrons dans une unité parfaite entre frères et sœurs, et ce sera réellement le paradis. Le ciel qui est certain pour ceux qui croient en Christ, c'est le pas encore. C'est certain, ça viendra, c'est devant nous. C'est le pas encore, ce qui s'accomplira certainement. Mais il y a aussi le déjà. Et tous ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont saisi par la foi l'œuvre de Jésus-Christ, sont nés de nouveau et ont un même Père. Et si nous avons un même Père, nous sommes frères et sœurs. De plus, nous sommes unis à Christ. Et si chacun est uni à Christ, nous sommes unis entre nous. Comme les membres unis à une même tête forment un corps et sont unis entre eux. C'est une belle image qui est développée dans 1 Corinthiens 12, comme nous l'avons lu, ou dans Romains 12 également. Être unis en Christ, c'est donc une joie, une délectation de nous rendre compte que Dieu nous a donné des frères et sœurs, d'autres membres au corps, que nous sommes nous aussi un frère ou une sœur pour les autres. Réjouissons-nous donc pour ce bienfait immense. Comprenez donc, étant unis avec Christ, c'est donc une joie. Quand on est unis à lui, on commence à saisir cette joie, cette délectation de nous rendre compte que Dieu nous a donné des frères et sœurs, qu'il y a plusieurs membres au corps. Imaginez un corps avec un seul membre, terrible. Mais non, c'est un privilège, une joie. Et que nous pouvons être un de ces membres, c'est-à-dire un frère, une sœur, pour les autres. Eh bien, réjouissons-nous pour ce bienfait immense. Et prions que Dieu agisse et nous donne la force de mettre à mort notre individualisme, notre orgueil et notre égoïsme qui nous empêchent de nous réjouir d'avoir des frères et sœurs dans la foi. Ou qui nous empêchent de nous réjouir d'être un frère ou une sœur pour les autres. Désirons l'unité de toutes nos forces. Mettons-y toute notre énergie. Et si une relation est brisée ou mal en point, ne la laissons pas dépérir. Mais agissons en artisans de paix pour rétablir la relation et retrouver l'unité. En Jean 17 que nous avons lu tout à l'heure, Jésus a prié pour l'unité. Et lorsque nous avions vu ce texte dans les prédications, nous avions vu que, ou même si vous n'étiez pas là, je peux vous le dire, c'est tellement beau et important, Dieu répond toujours aux prières de Jésus-Christ. C'est juste incroyable. Et on a lu ensemble tout à l'heure ce qu'il a prié pour cette unité, en fait, qu'il désire entre nous. Une unité identique à son unité avec le Père, et nous avec lui, et nous entre nous. Sans unité, l'Église ne peut pas avancer, ni progresser. Et il ne faut pas invoquer l'aridité spirituelle d'une région, car notre Dieu n'est pas arrêté par cette difficulté. Par contre, si nous sommes unis, nous pouvons nous attendre à la bénédiction de Dieu. Et si vous savez qu'une relation dans laquelle vous êtes n'est pas restaurée dans le cadre de l'Église locale, par exemple, ne vous donnez pas de repos jusqu'à ce qu'elle soit rétablie. C'est la santé de toute l'Église qui en dépend. Mais nous ne sommes pas seuls pour ce travail, heureusement. Nous sommes appelés à puiser notre force, notre courage, notre inspiration dans l'œuvre de Christ, qui est notre refuge, qui nous indique le chemin de la repentance, de la foi et de la joie, de la grâce. C'est ça que nous voulons vivre les uns avec les autres, et je vous assure que si nous le vivons, les relations s'approfondissent et Dieu bénit. Et si vous n'avez pas de brouille dans une relation avec quelqu'un, eh bien remerciez Dieu et persévérez dans cet état de réconciliation. Priez et encouragez ceux qui doivent encore régler quelque chose afin que nous puissions dire de tout notre cœur en venant à l'église, joyeux et motivé, qu'on puisse le dire. Vous dites dimanche prochain en venant dans la voiture, est-ce que je peux dire « Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. » Ah, c'est mon désir. Que nous puissions dire ça de tout notre cœur lorsque nous venons dans ces lieux bénis. Cherchons une union non pas de surface, on peut simplement se dire « Bonjour, on est content de se voir », mais une union profonde, une union de cœur. Et c'est en nous attachant de tout notre cœur à Christ que nous serons unis de cœur ensemble. Puisque là, il va agir en nous et nous permettre de nous rapprocher les uns des autres. Et il y a un texte de référence dans le Nouveau Testament concernant l'unité dans l'Église locale. Je ne vais pas lire tout le texte, je ne lirai qu'une partie, c'est Éphésiens 4, les versets 1 à 16. Un texte que vous pouvez méditer régulièrement en lien avec comment vivre les relations dans l'Église. Nous allons lire les 6 premiers versets d'Éphésiens 4. Alors, vous pouvez regarder avec moi dans vos Bibles. Nous reviendrons dans psaume 33 tout à l'heure. Éphésiens 4, au verset 1. C'est le Saint-Esprit qui nous parle, hein, par l'apôtre Paul, qui l'a inspiré. Mais c'est Dieu lui-même, hein, qui est en fait l'auteur de ces lignes. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, donc là c'est l'apôtre Paul qui parle, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous. » Et en tous. Tout un programme déjà ici, qui est basé sur notre filiation à ce Père qui est le même pour tous. Il n'y a qu'un seul Père, on le voit encore dans ce texte. Et lorsque nous vivons ce programme conduit et guidé, hein, avec la force de Dieu, eh bien, une phrase jaillira de notre cœur. Cette phrase, vous la connaissez maintenant. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères qui ont le même Père d'habiter ensemble. Revenons au psaume 133. David donne ici cette phrase si forte. C'est en fait le thème de tout le psaume. C'est le psaume. Et David, maintenant, va illustrer ce qu'il a dit. Il donne des illustrations pour nous aider à comprendre ce qu'il vient de dire, pour aider à comprendre la profondeur de cette notion de l'union. Et c'est les versets 2 et 3 qui commencent chacun par « c'est comme ». « C'est comme ». Et c'est notre deuxième point, « c'est comme l'huile et la rosée ». Relisons ces versets 2 et 3, la première partie du verset 3. « C'est comme l'huile la meilleure qui répandit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. » Alors, vous venez de passer un excellent dimanche de communion fraternelle, vous avez mangé un bon repas qui était excellent, les discussions étaient profondes, enrichissantes et stimulantes, et vous rencontrez un ami qui vous demande comment ça s'est passé à l'église. Et là, vous lui répondez, c'était comme l'huile qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. Et là, vous vous rendez compte que votre ami a de la peine à comprendre ce que vous dites. Alors vous dites, mais oui, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les monts de Sion. Bon, si vous lui aviez dit que c'était comme manger une fondue d'exception, ou que c'était comme les beaux feux d'artifice du 1er août, celui qui connaît la Suisse en face de vous aura bien compris que c'était excellent et magnifique. Pour comprendre David, il faut comprendre son contexte. Pour comprendre David, il faut comprendre son contexte. C'est ce que nous allons faire. Donc, nous allons parler de l'huile d'abord. L'huile était utilisée pour l'onction lorsqu'une personne était appelée par Dieu à être prophète, roi ou sacrificateur. Et David, ici, dans le psaume 133, fait particulièrement mention de l'onction du sacrificateur en parlant d'Aaron. Vous connaissez Aaron ? Aaron, c'était le premier souverain sacrificateur qui a été oint. Et cette huile parfumée qui était utilisée, vous ne pouviez pas l'acheter pour votre épouse. Et si vous le faisiez, vous étiez retranché du peuple. C'est ce que Exode 33 nous dit. Cette huile précieuse, avec des aromates dont la composition est décrite dans Exode 30, les versets 23 et 24, était uniquement utilisée pour oindre ce qui était sacré, ce qui était mis à part pour Dieu, ce qui devait être saint devant Dieu. Et nous voyons dans Exode 30 qu'en fait, le tabernacle, l'arche de l'Alliance, le mobilier du tabernacle était oint avec cette huile pour en fait les rendre saints, pour les mettre à part pour Dieu. Et il y avait aussi les sacrificateurs, donc le souverain sacrificateur, ensuite ses fils, qui étaient aussi oints. Le but était de montrer que tout ce qui était oint devait être mis à part, qui était donc saint. Lorsque David évoque cette huile, ici dans le psaume 133, il indique que ce dont il parle, l'unité entre frères, est saint et précieux. En fait, quand il dit ça, il dit c'est saint et précieux. On aurait peut-être dit c'est comme de l'or pour dire que c'est précieux. Lui, il a pris quelque chose qui était extrêmement précieux en Israël et que personne n'osait même utiliser, qui était juste utilisé pour oindre ce qui était mis à part pour Dieu. Donc l'unité des frères qui habitent ensemble est sainte et précieuse. Que ceci coule dans notre âme comme l'huile pour qu'on le comprenne bien. L'unité entre frères et sœurs est sainte et précieuse. La prochaine fois que nous serons tentés de critiquer, de causer des divisions en voulant ne pas céder, de nous retirer des relations ou de provoquer par jeu, rappelons-nous que l'unité est sainte et précieuse aux yeux de Dieu. Et retenons-nous d'agir ainsi. Cette huile utilisée pour oindre le représentant du peuple devant Dieu avait la particularité d'avoir une forte odeur qui se répandait. Et David parle de l'huile qui se répand, qui descend sur Aaron, sa barbe et son habit. Et en comprenant maintenant que notre souverain sacrificateur n'est plus Aaron, qui est notre souverain sacrificateur? C'est Jésus-Christ. Eh bien, cette huile est répandue sur sa tête et descend sur son corps. Ça vous dit quelque chose, le corps de l'Église? Enfin, le corps de Christ, je vais donner la réponse. Cette unité que Christ a avec son Père se répand sur son corps qui est l'Église. C'est ce que Jésus priait dans Jean 17. Les frères qui habitent unis ensemble dans l'Église, c'est donc comme l'onction qui vient de Christ et descend sur nous répandant son parfum d'amour. C'est ce parfum que nous dégageons, en fait, quand nous nous aimons les uns les autres dans l'unité. L'image de l'huile indique donc, et je dirais en deux phrases, ça indique l'unité, que l'unité est sainte et précieuse. L'unité est sainte et précieuse. Et cette huile nous indique aussi que l'huile se répand, enfin l'unité se répand et dégage un parfum d'amour. Voilà cette illustration de l'huile. Donc quand vous entendez cette illustration, maintenant vous pouvez vous dire, ok, l'huile qui descend sur Aaron, ok, c'est qu'elle est sainte, elle est précieuse, elle se répand et elle dégage un parfum d'amour. Voilà. La deuxième image concerne la rosée. Alors c'est vrai que la rosée m'a toujours fasciné. Hein. Je me demande comment il est possible d'avoir des gouttes d'eau sur l'herbe alors qu'il n'a pas plu et qu'il n'y a aucun nuage. C'est fascinant, hein? Je trouve ça juste excellent. Puis en plus, c'est joli. Hein. Vous avez déjà vu des photos de rosée, c'est juste magnifique. Alors c'est vrai qu'une explication physique simple, hein, dans l'air il y a de l'humidité, hein, c'est ce que l'hygromètre mesure en nous donnant le taux d'humidité de l'air. Par exemple, je ne sais pas, peut-être 70% ici. Et nous ne voyons pas cette humidité, qui est, enfin vous la voyez vous? On ne la voit pas, hein, on ne voit pas cette humidité qui est contenue dans l'air. Mais lorsque la température diminue, l'air n'a plus autant de capacité d'avoir autant d'humidité, en fait. Donc elle doit déposer cette humidité quelque part, et c'est ainsi que la rosée se forme. Alors, une petite expérience facile pour comprendre cela, vous pouvez prendre dans votre frigo une bouteille bien froide et la sortir quand il fait chaud. Que se passe-t-il? Des gouttes d'eau autour de la bouteille. C'est pas la bouteille qui transpire, n'ayez crainte. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est l'air qui dépose de l'eau sur cette bouteille. Parce qu'à cet endroit-là, la température a chuté et il n'y a plus assez de place pour l'humidité dans cet air-là. Puis pof, il dépose sur la bouteille. Voilà comment fonctionne la rosée. Mais bon, même en connaissant cette explication, je trouve quand même toujours extraordinaire le matin quand je vais dans la nature et que c'est tout mouillé. Vous dites, mais il n'y a pas de nuages. C'est juste extraordinaire. Parce qu'en fait, ce qui est invisible a agi et a rendu quelque chose visible. Et c'est un élément que l'on peut comprendre avec la comparaison de l'unité des frères qui habitent ensemble. Ce qui les unit est invisible, mais cela a des conséquences visibles sur leur vie. Alors c'est vrai que si cet aspect est intéressant, que je l'aime beaucoup, je pense que l'idée principale de l'illustration de la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion est plutôt d'ordre du rafraîchissement, d'apport d'eau vitale dans les régions sèches. L'Hermon, c'est au nord d'Israël. Et un lieu qui est gorgé d'eau, avec des montagnes enneigées. Et lorsque David dit que la rosée de l'Hermon descend sur la montagne de Sion, il ne parle pas forcément de l'eau qui est dans l'Hermon. C'est une image, on est dans un poème ici, hein, donc il y a des images. En fait, c'est les pèlerins qui affluent depuis le nord comme des gouttes d'eau qui arrivent à Jérusalem. Il y en a beaucoup et ils amènent un rafraîchissement par leur enthousiasme. Vous savez, sans rosée dans les lieux désertiques de Judée, rien ne grandit. Rien ne grandit, comme rien ne grandit sans unité. Trop intéressant, en faisant un petit peu des recherches sur cette rosée, de voir qu'il y a même des moyens de récupérer la rosée pour en faire de l'eau potable dans certains endroits. Je trouve ça juste incroyable. Vous n'avez pas de pluie, rien du tout, et vous avez de l'eau potable. Bon, il faut des endroits assez grands, hein. Mais je trouve ça incroyable. Parce que la rosée va permettre qu'ensuite toutes ces plantes, qui n'auraient rien s'il n'y avait pas cette rosée, puissent grandir. Et la rosée, dans la Bible, est un signe de bénédiction. On le voit par exemple dans Genèse 27, lorsque Jacob bénit ses fils. Et il dit, en parlant de Joseph, que dans Genèse 27, verset 28, « Que Dieu te donne la rosée du ciel et des ressources de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance. » La rosée, en fait, décrit la bénédiction. Et nous trouvons une parole semblable dans Deutéronome 33, lorsque Moïse bénit le peuple. Et même dans Ésaïe 26, au verset 19, l'image de la rosée est utilisée pour parler du retour à la vie, de la résurrection. David, lorsqu'il compare l'unité des frères qui habitent ensemble à la rosée dans ce psaume 133, souligne que c'est une grande bénédiction, une source de vie. Et nous avons vu, lorsque nous avons un peu réfléchi à l'unité, que c'est une réelle bénédiction lorsqu'il y a de l'unité. Et une dernière chose que j'aimerais souligner avec cette rosée, c'est qu'elle vient de Dieu. Même si on connaît la naissance, c'est encore lui qui l'a produit. car ce n'est pas la bouteille qui transpire, mais c'est l'air environnante qui dépose ces gouttes. Hein, on l'a compris maintenant. Et si je peux vous dire que c'est Dieu qui le fait, ben c'est que c'est la Bible qui nous le dit. Parce qu'il faut que je dise ce que la Bible dit, c'est le plus important. Hein? Et dans Job, quand Dieu commence à parler à Job, il lui répond, il lui pose des questions. Hein? Et c'est des questions rhétoriques où à chaque question, la réponse, c'est Dieu. Hein? Et là, il pose la question, la pluie a-t-elle un père? Qui donc fait naître les gouttes de rosée? C'est Dieu lui-même. Lisez Proverbe 3:20 qui parle de la sagesse de Dieu qui justement fait la rosée. Et si la rosée vient de Dieu, l'unité des frères qui habitent ensemble vient de Dieu également. Donc l'image de la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion indique donc plusieurs éléments. Je vais les résumer ici maintenant. Donc la première chose, c'est que ce qui est invisible dans l'unité produit des choses visibles. Ce qui est invisible dans l'unité produit des choses visibles. Deuxièmement, l'unité est rafraîchissante. Alors c'est vrai, hein, quand on se retrouve dans une situation avec des gens à qui on est unis, c'est juste rafraîchissant. L'unité permet de grandir. L'unité permet de grandir. L'unité est une bénédiction. Et cinquièmement, l'unité vient de Dieu. En fait, c'est tout ça que David veut nous dire lorsqu'il dit que c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les monts de Sion. David a donné une affirmation, qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'habiter ensemble. Il a illustré cette vérité par deux images riches, comme nous l'avons maintenant saisi, et il termine en indiquant ce que Dieu fait dans cette unité. C'est la deuxième partie du verset 3 qui commence par « c'est là ». À cet endroit, c'est là que Dieu bénit et donne la vie. Hein? Verset 3b de psaume 133. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là, dans ce lieu d'unité. Oh, la joie du pèlerin qui allait à Jérusalem de savoir que Dieu donnait la bénédiction et la vie. Il s'en réjouissait. Il dit, ouais, je vais être renouvelé par Dieu. Quelle joie nous avons de savoir que Dieu donne la bénédiction infinie et la vie sans fin dans la nouvelle Jérusalem où nous dirigeons. Mais oui, c'est vrai. Alors pour autant que nous soyons sortis du train de ce monde, qui mène à la destruction, bien entendu. La destination de celui qui croit en Christ est tout simplement géniale. Un lieu d'unité où Dieu bénit et donne la vie éternelle. Or, bénir, ça veut dire quoi, bénir? Bénir veut dire faire du bien, ou dire du bien, ou faire du bien, et personne mieux que Dieu ne peut faire du bien. Personne mieux que Dieu ne peut faire du bien. Un bien extraordinaire, c'est encore bien mieux que tous les bien-être que nous pourrions trouver sur cette terre. Vous imaginez comment ça serait bien sur terre si j'étais ainsi, ainsi, ainsi? Ben en fait, dans la Nouvelle Jérusalem, c'est encore bien mieux. C'est encore bien mieux. Et quand il dit qu'il donne la vie, ce n'est pas à moitié. C'est une vie sans maladie, sans limitation, sans fin que nous vivrons dans la Nouvelle Jérusalem. Comprenez donc, le pèlerin qui allait à Jérusalem, il avait déjà des promesses de bénédiction et de vie sur terre. Nous, en pensant à la Nouvelle Jérusalem, c'est bien plus grand encore. Donc on devrait chanter ce psaume dans la joie. Hein? Et maintenant nous avons déjà les arts, les avances sur ce que nous allons vivre au ciel. Nous goûtons déjà de la bénédiction de Dieu et de la vie éternelle. Ici-bas, quelle grâce! Et dans ce lieu particulier le plus important du monde. Vous savez qu'il y a un lieu qui est le plus important du monde? Dans 1 Timothée 3, 14 et 15, il a dit ceci. C'est Paul qui parle à Timothée, et il lui parle de l'Église. « Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, écoutez bien maintenant, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Qu'est-ce qui est la colonne et l'appui de la vérité? C'est l'Église. Ce ne sont pas les universités, ou les scientifiques, ou les chambres nationales, ou même l'ONU ou l'OTAN, qui sont la colonne et l'appui de la vérité. Non, la colonne et l'appui de la vérité, c'est l'Église de Jésus-Christ qui proclame la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est le lieu le plus important du monde. Et si l'Église de Jésus-Christ est manifestée visiblement par les églises locales, c'est là ce lieu d'unité qui est la colonne, l'appui de la vérité que Dieu bénit et où il donne la vie. Sommes-nous conscients que c'est le lieu le plus important du monde? Ou est-ce que c'est le lieu où il y a eu le dernier attentat ou je ne sais quoi? Le lieu le plus important du monde, c'est là où il y a l'appui de la colonne, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et ce lieu est un lieu d'unité que Dieu veut unir. Et pour conclure, je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée dans les années 80. Aux 80, s'il y a des vaudois, donc dans les années 80. Un homme était emprisonné en Sibérie. Les goulags, Sibérie, ça vous dit peut-être quelque chose. Donc un lieu terrible. Et Ronald Reagan avait plaidé pour cet homme auprès de Gorbatchev afin qu'il soit libéré. Ce qui fut fait. Et lorsque notre prisonnier est arrivé en Allemagne de l'Ouest, une horde de journalistes l'ont assailli de questions. Et l'une d'elles était celle-ci. Nous avons entendu une histoire nous disant qu'un jour, un gardien vous a pris votre livre des psaumes et vous vous êtes jeté dans la neige. En Sibérie, hein, c'était l'amour assuré. S'il restait là, ne voulant plus vous lever et étant prêt à mourir tant qu'il ne vous aurait pas donné votre livre. Et il vous a donc jeté le livre. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Et un autre journaliste lui demande alors, « Mais alors, quel est votre psaume préféré ?» Et sans hésiter, il dit le psaume 133. Le psaume 133. Pourquoi ce prisonnier avait-il tant à cœur ce psaume? Eh bien, c'est simplement parce que la seule manière de survivre dans le camp où il était prisonnier était l'unité et la solidarité. Les tortionnaires ont toujours et de tout temps cherché à diviser les gens pour mieux les maîtriser. Mais là, chaque soir, le petit groupe de prisonniers lisait un psaume et priait ce qui les maintenait unis ensemble. Sinon, c'était la mort assurée. Voilà pourquoi notre prisonnier était prêt à mourir dans la neige lorsque le garde lui a pris le livre des psaumes. Car sans cette lecture journalière, l'unité et la solidarité auraient cessé et il préférait mourir tout de suite. Dans le cas de ces prisonniers, la survie dépendait de l'unité et de la solidarité qui y étaient attachées. Mais n'est-ce pas aussi notre cas dans cette guerre spirituelle dans laquelle nous sommes ? Satan cherche à diviser, à désunir. Il cherche à utiliser chacun de nous pour ce travail de destruction. Et il rit avec le monde avec lui lorsqu'il y a des divisions dans l'Église. Mais gardons courage, car Jésus a vaincu Satan et le monde. Et en nous appuyant sur lui, en puisant dans sa grâce, soyons des artisans de paix, afin de dire de tout notre cœur, car nous le vivons, voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble, en nous réjouissant d'ailleurs de le vivre une fois parfaitement dans la gloire. Nous allons prier. Ô Éternel notre Dieu, quelle grâce, quelle joie de pouvoir lire ce psaume de David qui nous indique comme il avait du plaisir, comme il était content de voir et de vivre dans cette unité. Merci pour ces images qu'il nous a données, qui donnent un relief aussi à cette unité, une profondeur. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous montres aussi des bonnes choses. Et tu nous montres que c'est ça que tu veux pour nous. Oh Seigneur, c'est tellement bon. Tu veux des bonnes choses pour nous. Et j'aimerais te prier de nous aider à y croire réellement, à chercher cette unité, à entrer dans le cheminement les uns avec les autres, de régler toutes nos relations, même si c'est des petites choses, afin que rien ne vienne troubler cette unité. Oh Seigneur, nous te remercions parce que toi, tu es parfaitement uni
en toi. Le Père et le Fils sont parfaitement unis. Et ce Fils s'est uni à l'Église. Et ainsi nous pouvons vivre cette unité les uns avec les autres. Seigneur, nous avons des fois de la peine à saisir tout cela, à saisir tous ces liens. Mais nous te prions de petit à petit les saisir pour en être simplement submergés, être tellement reconnaissants de l'œuvre que toi tu fais. C'est toi qui nous unis. C'est parce que tu es notre Père commun que nous sommes frères et sœurs. Et Seigneur, parce que nous sommes frères et sœurs, bien nous avons aussi des égards les uns pour les autres. Nous le voyons dans nos propres familles où lorsque notre frère vit quelque chose, nous ne sommes pas indifférents. Eh bien Seigneur, nous voulons le vivre aussi dans l'Église parce que tu nous as fait vivre à nouveau par cette nouvelle naissance. Tu nous as donné la vie, une vie qui n'est pas seule sur une île, mais une vie qui fait partie d'une famille. Et Seigneur, c'est une grâce de pouvoir vivre les uns avec les autres. Oh, sois loué, sois béni. Et donne-nous, Seigneur, cette force de résister au diable lorsqu'il veut nous tenter de briser cette unité d'une quelconque manière. Oh Seigneur, garde-nous du malin et donne-nous cette joie et ce désir de vivre unis avec toi et les uns avec les autres. Oh, je te bénis, je te remercie pour chacun ici présent que tu aimes et que tu désires faire entrer dans cette unité que nous vivrons parfaitement dans ta gloire. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.